Et j'aimerais, pour commencer ma prédication, chanter juste un je suis pas chanteur, je suis pas Will Abriel, et je demande pardon déjà pour toute l'horreur de ma façon de chanter, mais j'aimerais juste vous demander si vous connaissez ce chant. Ça fait juste comme libéré, délivré, je ne mentirai plus jamais. Okay, on connaît ça ou pas? OK, moi j'ai compassion, j'ai eu trois garçons. Puis mes trois garçons sont nés avant la Reine des Neiges. On sait ça, j'ai l'image à l'écran pour tous ceux qui ont des mauvais souvenirs, la Reine des Neiges. Quand à cette époque-là, si t'avais une petite fille, t'étais fini. C'était la Reine des Neiges à tout bout de champ. C'était à chanter libéré, délivré jour et nuit partout. Et moi j'ai compassion pour les gens qui ont vécu l'enfance de petite fille à l'époque de la Reine des Neiges. Je bénis le Seigneur de m'avoir donné trois garçons avant ça. J'aurais probablement pas supporté. Mais elle chante libérée, délivrée. Puis quand elle chante, t'as l'impression que tout le monde peut vivre merveilleusement bien, libérée, délivrée. Mais ce matin, alors qu'on est dans notre week-end de Pâques, j'aimerais m'arrêter sur le fait que si la Reine des Neiges chante joyeusement, libérée, délivrée, en courant dans la neige, il y a une réalité tout autre qui est que beaucoup de gens voudraient pouvoir chanter libérée, délivrée, mais ce qui résonne dans leur tête, c'est pas ce tube merveilleux. Il y a des gens qui, dans leur tête, leur quotidien, c'est d'entendre le son des chaînes qui les retiennent. C'est d'entendre le son du fer qui frotte les portes des prisons dans lesquelles ils sont enfermés. Des gens qui sans cesse n'entendent que les chants de l'incompréhension, de la désillusion, le chant de leurs mauvaises décisions qui vient à chaque jour, chaque semaine, leur rappeler combien ils ne sont pas ni libérés, ni délivrés, mais enchaînés dans des situations parfois impossibles. Et eux, leur question, c'est quand est-ce que ça va pouvoir changer ? Est-ce qu'il y a un moment donné où je vais pouvoir changer? Est-ce qu'il y a un moment donné où je vais pouvoir être libéré, délivré? En ce week-end de Pâques, je veux annoncer que la Reine des Neiges ne pourra rien pour changer ta condition. Mais je veux t'annoncer que la croix a effectué le travail pour toi. La croix a effectué la job. La croix est venue transformer la condition de celui qui vient la rencontrer. De celui qui reconnaît qu'est-ce qui s'est passé sur cette croix. Le prince de paix, le seigneur de gloire, le sauveur de l'humanité a tout accompli. Wouh! Là, je m'attendais à un plus gros amen. C'est trop tard. Mais il y aura d'autres chances. Il peut transformer. Le prince de la paix peut transformer ta condition, peut transformer ta situation. Il peut te conduire dans une véritable liberté, pas une liberté virtuelle chantée par la Reine des Neiges, une véritable liberté parce qu'il a tout accepté, parce qu'il a tout supporté, parce qu'il a tout réalisé, parce qu'il a été crucifié afin de ressusciter pour ta liberté et pour ma liberté. Il l'avait annoncé, il avait dit, je m'en vais souffrir, mais trois jours après, je vais ressusciter. Les gens l'ont entendu, mais les gens l'avaient oublié ou certains ne l'avaient pas cru. Il l'avait prédit, il l'a accompli, il l'a fait et il déclare sur la croix. Avant de remettre son esprit au Père, le texte nous dit que il va déclarer cette phrase. Tout est accompli. Tout est accompli ce matin. Lorsque Jésus est sur le bois de la croix, trois mots qu'il va prononcer en Jean 19, 30. Le texte nous dit que quand Jésus eut pris le vinaigre, il a fait cette déclaration. Tout est accompli. Et alors, lorsqu'il fait cette déclaration, il dit, Père, je remets mon esprit entre tes mains. Et puis, le texte nous dit que à ce moment-là, il rend l'esprit. Trois mots. Tout est accompli. Et c'est tellement bon de revenir des fois dans l'origine des mots, parce que le mot originel, c'est pas trois mots, c'est un mot. Et ce mot, c'est tétélestai. Et tétélestai, c'est tellement plus que tout est accompli. C'est tellement plus que j'ai fait la job. C'est tellement plus que j'ai fait ce que je pouvais faire. Ou j'ai fait de mon mieux. Non. Tétélestai, c'est puissant. Tétélestai, c'était un mot qui était une marque de perfection, une marque d'excellence. Et lorsque Jésus déclare ceci, tétélestai, il dit pas, j'ai fait de mon mieux, ou on verra si ça va donner. Non, il dit, j'ai fini mon œuvre. Tout est définitivement achevé. Et tétélestai, c'est la mise en beauté dans un décor d'horreur, dans un décor de mort, dans un décor ensanglanté d'un homme qui meurt sur le bois de la croix. D'un homme qui est attaché littéralement à lorsque Jésus est sur la croix, cloué, en train d'expirer entre deux brigands, lorsque l'image est horrible. Mais c'est un Jésus qui dit, alors que je suis là, dans tout le décor que vous voyez, dans toute l'horreur, alors que vous voyez toute la mocheté de ce monde, toute la souffrance de ce monde, j'aimerais vous dire ceci, alors que je meurs à la croix pour vous, ma déclaration pour toi, c'est que tout est accompli. Tout est accompli. Il n'y aura rien à rajouter, il n'y aura rien à enlever, il n'y aura rien qui pourra être amélioré. Tout est accompli. Et tout est accompli, c'est très intéressant de voir que dans la Genèse, Dieu va utiliser un terme qui est littéralement identique que tétélestai lorsqu'il va achever la création. Le texte nous dit en Genèse 2:1 que « ainsi furent achevés les cieux, la terre et toutes leurs armées ». Et le mot achevé, c'est la même signification que tétélestai. C'était de l'hébreu, mais c'est la même signification, c'est que tout est fait dans une mesure de perfection. Tout est fait dans une mesure d'entièreté générale. C'est un mot qui communique que rien ne pourra être ajouté ou retiré ou amélioré. Non, tout est fait parfaitement. Quelqu'un doit entendre ceci. Jésus a fait pour toi une œuvre parfaite. En prononçant ces mots, Jésus nous indique que son œuvre est complète. Il ne manque rien dans ce qu'il a accompli. Et dans la Grèce antique, on connaissait et on utilisait le terme « tétélestai ». C'est un terme qui était connu de tout le monde. « Tétélestai », c'était la marque du terme d'un contrat. Lorsque tu faisais un contrat avec quelqu'un, lorsque tu avais un engagement commercial ou un engagement personnel, il y avait un contrat qui était rédigé. Et lorsque le contrat était rédigé, lorsque celui-ci était achevé, lorsque celui-ci était accompli, lorsque les obligations du contrat étaient levées, celui qui possédait le contrat écrivait dessus « tétélestai ». Il a payé, il a accompli, les choses sont faites. Il n'y a plus rien qui peut être ajouté. Et dans le contexte de la croix, de la crucifixion, l'utilisation de Jésus du terme « tétélestai » venait comme si Jésus déclarait le travail de rédemption, le travail de salut pour lequel je suis venu, il est accompli. Je l'ai fait, je l'ai achevé. Désormais, aujourd'hui, tout est accompli. Les gens n'ont plus qu'à entrer. Le chemin est préparé. J'ai rempli mes obligations. Le contrat est fait. Les obligations sont remplies. Les paroles prophétiques sont parfaitement accomplies. De la naissance de Jésus à Bethléem, de sa naissance prédite d'une vierge, de son ministère en Galilée, toutes les prophéties qui sont données des centaines et des centaines d'années avant Jésus-Christ, dans l'Ancien Testament, tout est accompli. Les miracles de Jésus cités dans Ésaïe, tout est accompli. Les aveugles voient, les sourds entendent. La trahison de Jésus par l'un des siens, le prix de la trahison que Zacharie citait, la crucifixion de Jésus avec des détails tellement fous que David écrira dans le psaume 22. David qui ne connaît pas Jésus, qui ne sait pas qui est Jésus, qui ne sait pas qu'un Jésus viendra, mais qui écrit prophétiquement toutes les choses. Voici comment ça va se passer. Tout est accompli. Ils ont tiré au sort mes vêtements. Mes os ont été préservés. Alors que je suis là sur la croix, ma mission est finie. Tout est accompli. Et je rends l'esprit maintenant afin d'entrer dans le processus de la résurrection pour amener la vie. Tout est accompli. Le contrat est achevé. Le contrat est réputé parfait dans son intégralité. Tétélestai. C'est le point final de quelque chose. Et tu dois entendre ceci, c'est tellement puissant. La croix est le point final d'un Jésus humanisé et le retour d'un Jésus glorifié. Wouh! La croix, c'est le point final d'un Jésus humanisé. J'ai fini, j'ai accompli mon œuvre sur la terre. Désormais, je meurs, je remets mon esprit entre les mains du Père et je reviens, je vais y revenir comme un Jésus glorifié. Jésus n'utilise pas les mots au hasard. Il y a une symbolique dans le choix des mots de Jésus. À l'époque, le terme tétélestai était stipulé pour les paiements des billets à ordre. Lorsque j'avais une dette avec toi, je faisais un billet à ordre. Et lorsque j'arrivais, je disais « Seb doit 5 euros, dollars, à Will. » Voilà. et je donnais à Will, voici le billet à ordre. Voici, je m'engage avec toi, je te dois. Et ça, c'est la preuve que je suis en dette avec toi. J'ai quelque chose que je te dois, quelque chose que je dois payer pour toi. Mais alors que je venais et que je donnais à Will les 5 dollars, Will n'avait pas d'autre choix que d'écrire sur mon billet à ordre. C'était le style. Je ne peux plus rien lui demander, je ne peux plus rien exiger de lui parce que quelqu'un a payé la dette. L'œuvre de Jésus, elle est parfaite. Un autre terme de tétélestai, c'est lorsqu'un père envoyait son fils en mission. Le fils ne pouvait pas revenir sans avoir accompli chaque étape de la mission qui lui était confiée. Il ne pouvait pas décider de revenir à la moitié. Non, il devait accomplir la mission. Et lorsqu'il revenait, le père, il disait au père, tétélestai, j'ai tout fait. Tout est accompli, tout est rempli. Il y a plus rien, tu ne peux plus rien me demander. Cette mission est parfaitement faite. Et alors que Jésus est sur la croix, il porte une déclaration tellement puissante, une déclaration sans équivoque. Il fait sa déclaration, alors que j'étais encore dans la gloire avec le Père, j'ai remis à mon Père un billet à ordre sur lequel j'ai marqué, je vais payer le prix pour les fautes de l'église Nouvelle Vie de Drummondville, mais je vais aussi payer le prix pour les fautes de tous les sites de Nouvelle Vie, puis je vais payer le prix pour l'humanité tout entière, mais je reviendrai quand le prix sera payé, je reviendrai quand le contrat sera rempli. Je pensais que tu allais dire amen, mais c'est pas grave. Je reviendrai quand tout sera fait. Et alors que Jésus est sur la croix, alors que Jésus est sur le point d'expirer, tétélestai, j'ai accompli ma mission. Je reviens à la maison. Je vais retourner dans ma gloire afin de la déverser sur l'église et sur chaque personne qui croira dans l'œuvre que j'ai accomplie. Ouh! Tellement bon. Dieu a écrit sur l'ordre de mission de Jésus, tétélestai. Il n'y a plus rien à ajouter. Tout est accompli. Alors, qu'on regardait cette série de témoignages, j'aimerais qu'on puisse mettre à l'écran la photo de Eddie. Et Eddie, dans son témoignage, vous l'avez vu il y a quelques instants, Eddie déclare ceci, il dit, j'avais pas besoin d'aide, j'avais pas besoin de Dieu. Et on s'entend que sa vie, son histoire, ses choix ne lui permettaient pas de concevoir ne serait-ce que le salut. Il ne pouvait même pas regarder de loin, d'aussi loin qu'il était, il ne pouvait pas regarder ou espérer le salut. Ça prenait une grâce particulière. Et alors qu'il va décider de voir l'aumônier, ce n'est même pas pour lui. Il va voir l'aumônier pour « Pasteur Steph, je voudrais que tu appelles mes parents pour les rassurer. » Et j'aime Steph. Steph qui va lui dire « Non, moi je suis là pour toi. » Quelqu'un doit entendre ce matin que Jésus est là pour toi. Jésus est là pour toi. Peut-être là, tu penses qu'il y a tellement de gens qui ont besoin d'être sauvés, mais tu as besoin, toi aussi, d'être sauvé. Tétélestai, tout a été accompli pour toi aussi. Christ a satisfait la justice de Dieu en mourant pour tous. Il a payé les fautes de l'humanité. Ses péchés ne peuvent plus être ne peuvent plus te condamner parce que ce serait une violation de la justice de Dieu. Les fautes et les péchés ne doivent être payés qu'une seule fois par un substitut ou par toi-même. Et la bonne nouvelle, c'est que Jésus s'est substitué pour toi. Il a payé ce que tu ne pouvais pas payer et il a donné littéralement l'héritage du prix payé. Ça, c'est pour toi. Il meurt en proclamant cette ordonnance, une ordonnance puissante. Il part pour œuvrer dans l'ombre et le silence. La résurrection, avant d'être une résurrection effective, elle est une œuvre invisible. Et j'aimerais qu'on regarde ce matin ensemble à l'œuvre invisible dans la résurrection. Parce que la mort à la croix met en lumière une œuvre invisible de la résurrection. Alors que tout le monde s'attendait à quelque chose d'extraordinaire lorsque Jésus est sur la croix. Il est le Fils de Dieu. On s'attend tous à quelque chose d'extraordinaire. Mais la seule chose qui se passe, je le disais la dernière fois, c'est que Jésus est mort. Mais lorsque Jésus est mort, il y a quelque chose de puissant qui prend place dans le silence, dans l'ombre, dans l'arrière-scène. Le texte nous dit ceci, l'apôtre Paul dira aux Colossiens dans le chapitre 2, les versets 13 à 15. Il dira, vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendu à la vie avec lui, en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Il l'a détruit en le clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles à la croix. Tout est accompli. C'est comme au théâtre. Alors que Jésus expire, alors que Jésus est emmené dans le tombeau, alors que la pierre est roulée. C'est comme au théâtre, Jésus n'est plus là, le décor est fermé, mais j'aimerais dire à quelqu'un, il y a des choses qui se passent dans l'arrière-scène. Lorsque le rideau tombe, les œuvres de Dieu ne s'arrêtent pas. Lorsque le rideau tombe devant tes yeux, lorsque le rideau tombe sur des situations de ta vie, l'œuvre de Dieu ne s'arrête pas. Le texte nous dit que Jésus était dans le tombeau, alors que personne le voyait, il était en dehors du champ de vision de tout le monde. Mais l'œuvre continuait. Jésus est descendu jusque dans les profondeurs de l'enfer. Et alors qu'il ressuscite, Jésus revient disant, je suis allé chercher l'acte qui te condamnait. Amen. Je suis allé chercher l'acte condamné. Et alors que Jésus revient, littéralement, et alors que Jésus revient, mais que le diable te dit, tu peux penser ce que tu veux, l'acte qui te condamnait est ineffaçable. Et personne ne peut rien pour toi. Tu es condamné à porter les marques de tes erreurs pour le restant de ta vie. Et quelquefois, je m'arrête un instant pour dire que quelquefois, on croit en Dieu, on croit en Jésus, on croit en la résurrection, mais on n'est pas capable de croire que Jésus a effacé l'acte qui nous condamnait. Tu dois entendre ceci, quelque chose de puissant qui prend place, c'est lorsque tu réalises la puissance de la résurrection. Lorsque tu réalises que Jésus a tout accompli, que son sang a coulé sur la croix une fois pour toutes et une fois pour tous, tu es inclus dans le une fois pour tous. Et alors que l'ennemi te dit « fais ce que tu veux, tu resteras coupable ». La croix te dit « amène, littéralement, amène tes fautes dans, sous le sang de l'agneau. Laisse le sang de l'agneau couvrir tes fautes et tes erreurs. Laisse le sang de l'agneau couvrir ta honte et tes péchés. Et alors que le sang a couvert tes fautes, Jésus va littéralement effacer. Voici l'œuvre de Jésus à la croix. Il a effacé l'acte qui nous condamnait. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Il y a des choses qui se passent dans l'arrière-scène, des choses que tu ne peux pas comprendre, mais tu dois savoir ceci, c'est que lorsque ton histoire te dit que tout est fini, lorsque tes erreurs te disent que tu es fini, lorsque ta culpabilité, ta honte te disent que c'est fini, lorsque les gens autour de toi te disent que toi-même tu es fini, la résurrection de Jésus, c'est Jésus qui déclare que rien n'est fini dans ta vie, mais que lui a tout accompli pour ta vie. C'est ça, la puissance. C'est quand ton histoire est morte ou semble morte que la résurrection vient ouvrir un nouveau chapitre dont Jésus est l'auteur. Quelles que soient les choses que l'ennemi a écrites sur ta vie, quelles que soient les choses que tu as écrites toi-même sur ta vie, le texte nous dit qu'il a effacé l'acte qui nous condamné. Et c'est très intéressant de voir les racines étymologiques des mots, parce que lorsqu'il dit « il a effacé les actes en grec c'est « kérographon ». Et « kérographon », c'est pas juste un décret, quelque chose qui a été écrit, non. « Kérographon » fait directement référence à ce que nous avons écrit pour nos vies. Et lorsque la Bible déclare qu'il a effacé l'acte qui nous condamnait, c'est littéralement, la parole de Dieu dit qu'il a effacé ce que nous avons écrit, les histoires que nous avons écrites, les histoires où nous avons décidé que nous sommes capables sans lui. Nous n'avons pas besoin d'un Seigneur, nous n'avons pas besoin d'un Sauveur. On sait prendre nos décisions, on sait prendre nos choix, on sait faire ce qu'on a à faire. Et alors qu'on a écrit notre vie, nous-mêmes, les chapitres de nos vies, erreur sur erreur, péché après péché, faute après faute. Le texte nous dit que Jésus a effacé l'histoire que nous avons nous-mêmes écrite, laissant une page blanche afin que lui-même puisse écrire dessus. Voici, je suis venu et aujourd'hui, rien d'autre que la grâce ne demeurera sur ta vie. Nous avons cette possibilité. La résurrection, elle efface les actes qui nous condamnaient. Et la résurrection, elle brise le pouvoir du péché et de la mort. Pierre dira en 1 Pierre 2, 24, « Lui-même, Jésus, a porté nos péchés en son corps sur le bois. » La croix, elle est le lieu où tes fautes ont été portées. Pas parce que Jésus monte sur le bois de la croix, il ne monte pas comme un coupable. Il est innocent qui porte les fautes de multitudes de coupables. Et la suite nous dit, il a porté lui-même nos péchés sur le bois, afin que, mort à nos péchés, nous vivions par la justice, lui par les meurtrissures duquel nous avons été guéris. C'est très intéressant de confronter, parce que Pierre nous met en lumière que Jésus n'est pas monté sur la croix avec ses fautes. Il était parfait, il a marché parfaitement. Toute sa vie était une vie de perfection, une vie d'intégrité, une vie d'honnêteté, une vie de vérité. Mais alors qu'il monte sur le bois de la croix, il est chargé de tes fautes, de mes fautes, du péché de l'humanité. Mais le texte nous dit qu'à la croix, il s'est dépouillé. Et lorsqu'on dit dépouillé, le mot grec, c'est apekdiomai. Et apekdiomai, c'est il s'est séparé de ce qui est sur lui. Écoute bien ça, manque pas ça. Lorsque Jésus monte sur le bois de la croix, c'est avec tes fautes. Il monte littéralement crucifié avec tes péchés, tes fautes sur le bois de la croix. Mais lorsqu'il est sur la croix, le texte nous dit, il s'est dépouillé, il s'est séparé de ce qui était sur lui. Il retourne dans la résurrection et la vie. Mais le péché est resté à la croix. Il s'est dépouillé, séparé de tout ce qui était sur ta vie. Il a porté nos péchés sur la croix, mais il est ressuscité et il s'est séparé. Il a absous nos fautes et nos péchés et il a retiré toutes nos fautes et notre condamnation. Il a dépouillé les dominations et les autorités. La résurrection n'est pas une histoire que nous devons croire. Je ne suis pas ce matin en train de te raconter une histoire pour t'amener à croire quelque chose. Non, la résurrection n'est pas une histoire à croire, elle est une réalité que nous devons vivre. Elle est une réalité que nous devons vivre. Demandez à Eddie, qui a témoigné sur la vidéo, demandez à Eddie s'il croit dans la résurrection ou s'il vit dans la résurrection. Il vit dans la résurrection. Ça a changé sa vie. Ma question ce matin, veux-tu vivre la résurrection ce matin? Parce qu'elle est la source de la libération pour ta vie. Elle est ce qui efface tes fautes. Elle est ce qui brise le pouvoir du péché. Elle annule les transgressions. Elle abat l'oppression. Elle restaure ta relation avec Dieu. Mais plus que ça, la résurrection, elle soumet toute puissance au pouvoir de la liberté en Christ. Il est ressuscité pour nous sauver. Il est ressuscité pour nous purifier. Mais il est ressuscité pour notre liberté. Le tableau de nos vies porte la mention « grâce ». Et rien ni personne ne pourra le changer. Paul aux Éphésiens dira ceci dans le chapitre 1, les versets 20-22. Il dit, c'est cette puissance, qu'il a déployée en Christ. Et il l'a ressuscité des morts. Et il l'a fait asseoir à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute souveraineté et de tout nom qui peut être nommé, non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Il a tout mis sous ses pieds et l'a donné pour chef suprême de l'Église. Ce passage nous décrit et nous montre la grandeur du pouvoir que Dieu a démontré en ressuscitant Jésus d'entre les morts. Et c'est en Christ que nous devenons, nous, héritiers de cette même autorité qui va nous conduire dans la pleine et la véritable liberté. Christ est souverain. Il est souverain sur tout. Il est élevé au-dessus de tout. Il est au-dessus de tout ce qui existe, quel que soit dans ce monde ou dans un monde à venir, que ce soit dans ce siècle ou dans les siècles à venir. Il est élevé, il est au-dessus de tout parce qu'il a accompli ce que personne ne peut accomplir. Il est ressuscité, il vit à jamais, il a vaincu la mort, il a défié la puissance, les pouvoirs de la mort, il a vaincu la mort et il est de toute éternité. Il a apporté une œuvre de résurrection effective pour nous amener une liberté authentique. Nous avons besoin de réaliser cela. L'œuvre de la résurrection n'est plus à venir. Elle est faite. Elle est effective. Elle n'est pas pour plus tard, elle est pour maintenant. As-tu besoin ce matin de liberté? As-tu besoin de vivre quelque chose de nouveau? As-tu besoin de croire la résurrection ou de vivre la résurrection? Lorsque tu vis la résurrection, ta vie est littéralement transformée. On peut douter de la résurrection et tu peux peut-être être là ce matin pour la première fois et tu peux douter de la résurrection. Tu n'es pas le premier et tu ne seras pas le dernier. Il y a des gens qui se sont fait experts pour démontrer que Jésus, la croix, la résurrection sont des chimères, sont des inventions, sont des choses qui n'ont jamais existé. Et j'aimerais simplement ce matin vous lire une courte histoire et vous demander de prêter attention à cette histoire. L'histoire d'un homme qui était un reporter renommé, qui couvrait de grands faits d'investigation au Chicago Tribune. C'était un journal important de Chicago. Et lui était très reconnu dans sa profession pour la qualité de ses enquêtes. Mais alors qu'un événement va conduire sa femme à se tourner vers la foi en Christ, l'athée qu'il était a entamé sa plus grande enquête, cherchant à prouver que le christianisme était un mensonge et que c'était un mensonge qui a traversé les siècles. Et déterminé à démystifier la foi chrétienne, il a entrepris une quête rigoureuse. C'est un investigateur pour chercher et trouver des preuves qui discréditeraient les fondements de cette croyance millénaire. Il interrogea des experts renommés. Il passa des heures à examiner des documents historiques, à scruter les écritures avec un regard sceptique. Il a rencontré des historiens, des théologiens, des scientifiques. Et cependant, au fur et à mesure de ses recherches, il est confronté à des preuves accablantes qui semblaient confirmer les événements décrits dans la Bible. Des témoins historiques, des preuves archéologiques, des arguments logiques ont commencé à s'accumuler et à mettre en lumière la véracité du christianisme. Qui est d'accord que celui qui cherche trouve ? Alors qu'il est dans ses pleines investigations, ses certitudes commencent à vaciller. Il se retrouve face à une question cruciale. Que faire avec cette montagne de preuves qui contredisait non pas l'évangile, mais ses convictions profondément ancrées ? Et lors d'une nuit sombre et silencieuse, dans le tumulte de ses pensées, il réalise l'impensable. Jésus avait non seulement marché sur cette terre, mais il avait aussi marché dans son cœur. Ses investigations pour prouver que la foi chrétienne est une foutaise ont eu raison de son athéisme. Ce qui avait commencé comme une quête pour déboulonner la foi chrétienne s'est transformé en un voyage spirituel inattendu dont voici la conclusion. Et c'est la conclusion, c'est une déclaration de Lee Strobel lui-même. Il dira la résurrection de Jésus-Christ est le miracle qui change tout. L'événement qui donne un sens à notre existence et une espérance inébranlable pour l'avenir. Quelqu'un devrait dire amen. Celui qui cherche trouve. Et je sais que on pourrait penser, peut-être quelqu'un un jour écoutera ce message sur Spotify et pourra penser, c'est facile de prendre un de tes copains et de raconter son histoire. Non, je ne connais pas personnellement Lee Strobel, mais je peux te donner tellement de témoignages. C.S. Lewis, un athée convaincu, critique, un grand critique du christianisme, qui est devenu au XXe siècle le plus grand apologète de son histoire. Il est devenu le plus grand défenseur de la foi chrétienne parce que a démonté le christianisme. Il a fini par rencontrer Jésus. Josh McDowell, qui était un étudiant universitaire, et alors qu'il entreprend une quête approfondie sur la Bible et sur Jésus-Christ, il devient chrétien et il est l'auteur de nombreux livres chrétiens. T'en veux encore? Rosaria Butterfly, ancienne professeure de littérature, elle a entrepris également recherche pour démonter le christianisme. Mais alors qu'elle a lu la Bible, elle est confrontée, percutée par la puissance de la vérité et elle devient chrétienne. Alistair McGrath, ancien athée et scientifique, devient théologien chrétien renommé. Frank Morrison, un avocat sceptique qui entreprend d'écrire un livre pour discréditer les récits évangéliques de la résurrection. Mais alors qu'il est dans ses recherches, il est convaincu de la véracité de la résurrection et il écrit un livre qui a roulé la pierre. Jennifer Fulweiler, ancienne athée et blogueuse, est très critique pour le christianisme. Après avoir étudié la philosophie, la théologie et l'histoire de manière approfondie, elle a été convaincue par la vérité de l'évangile, est devenue chrétienne et elle a expliquer tout son témoignage dans un livre qui s'appelle « Quelque chose d'autre que Dieu, celui qui cherche, trouve ». J'aimerais dire ceci, personne ne peut décider que Christ n'est pas ressuscité s'il n'a pas préalablement recherché la vérité. Trop facile de dire que Jésus n'existe pas. Trop facile de dire que Jésus, c'est des foutaises. Non, nous avons besoin de rechercher la vérité. Le christianisme, comme l'athéisme, n'est pas un héritage. Tu n'hérites pas ça de tes parents, mais c'est un choix fondé sur des convictions. Mais ma question ce matin, c'est sur quoi reposent tes convictions ? Sais-tu quoi ? La recherche sincère de la vérité, elle va te conduire à la vérité. Tu n'es pas prêt pour ce que je vais te dire. La recherche sincère de la vérité, elle va te conduire à la vérité. Jésus a déclaré, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. » La recherche de la vérité, la quête que tu vas entreprendre va être ton chemin qui va te conduire à la vérité et qui va t'amener dans la liberté. J'encourage ce matin, officiellement, tous les athées de Drummondville. J'encourage tous les athées du Québec. J'encourage tous les athées du monde entier à commencer à enquêter sérieusement sur Jésus-Christ, sur la croix et sur la résurrection, parce que la quête de vérité va les amener à trouver celui qui est la vérité. Si tous les athées donnaient à Christ une opportunité de se révéler, l'athéisme cesserait d'exister. Si tous les athées donnaient à Christ l'opportunité de se révéler, l'athéisme cesserait d'exister. Le mot quitterait le dictionnaire. Parce que tous ceux qui cherchent finissent par trouver. Jésus est vivant. Jésus est ressuscité. La croix est vide. Le tombeau est vide. Les gens cherchent encore les vestiges scientifiques et archéologiques de Jésus. Ils ne trouveront pas parce que Jésus est vivant. Il a traversé l'abîme infranchissable. Il est le seul qui l'ait fait et il déclare dans Apocalypse 1:18 « Je suis le premier et le dernier et le vivant. J'étais mort et voici, je suis vivant au siècle des siècles. Mais plus encore, je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. » Pendant que j'invite les musiciens à me rejoindre. Jésus était mort. Et pendant 3 jours, Il a ébranlé l'enfer et il a assujetti la mort à son autorité. Après 3 jours, il est revenu. Aujourd'hui, nous fêtons, nous célébrons la résurrection de Jésus. Il est revenu à la vie, le seul ressuscité, le seul qui a la puissance pour se révéler à toi, le seul qui est glorifié, le seul qui est revêtu d'autorité. Il a effacé l'acte et les condamnations qui étaient pour nous et qui marchaient contre nous. Il a déclaré, je suis celui qui efface la condamnation et qui applique la grâce sur tous ceux qui m'ont accepté. Il était cloué sur le bois. Mais il a ressuscité et il a laissé sur le bois notre condamnation clouée. Il a cloué les choses qui te condamnaient sur le lieu de sa victoire. Le lieu qui était censé le détruire, le lieu qui était censé l'arrêter, le lieu qui était le lieu de souffrance est devenu le lieu de la gloire, le lieu de la sainteté, parce que le sang de Jésus a coulé. Et Colossiens 2 nous dit ceci, « Il nous a rendus à la vie avec lui. » Lorsque Jésus est sur le bois, lorsque Jésus meurt, lorsque Jésus descend dans les profondeurs de l'enfer, pour assujettir ses droits et son autorité. Le texte nous dit qu'il est paru ressuscité et il a effacé l'acte et les ordonnances qui te condamnaient et qui subsistaient contre toi. Il l'a détruit comment ? Il l'a cloué à la croix. Jésus n'est pas sur la croix. Jésus n'est plus sur la croix. Jésus est vivant. Et Jésus a accompli ce que personne ne pourrait accomplir. Alors, qu'il est sur le bois, il va littéralement clouer l'acte qui me condamnait. Il a cloué l'acte qui me condamnait. Mais plus encore, Jésus te connaissait. Jésus connaissait l'humanité. Jésus a porté le péché de l'humanité tout entière. Et alors, qu'il est sur le bois de la croix, la parole nous dit qu'il a cloué l'acte de l'humanité. C'était l'estaï. Tout est accompli. Sais-tu quoi? C'est ma conclusion ce matin. Pourquoi Jésus a cloué l'acte qui te condamnait à la croix? Parce que Satan ne peut plus regarder la croix. Satan ne peut plus s'approcher de la croix. Écoute-moi bien. Satan n'avait aucune idée de ce qui était pour venir lorsqu'il a mis en place le stratagème de la croix. Lorsqu'il a tourné les pensées de Judas. Lorsque tout était, pour lui, tout était bien ficelé. Pour lui, il faisait un plan merveilleusement bien orchestré. Oui, mais par qui? Par Dieu lui-même. Satan ne percevait pas, il ne pouvait percevoir que ce qu'il faisait était simplement quelque chose que Dieu et Jésus s'étaient accordé et il mettait en action simplement le plan qui était préalablement déjà décidé. Et lorsqu'il voit Jésus sur la croix, il ne peut même pas penser, même pas imaginer ce qui est en train de se passer. Jésus te redonne ta liberté. Jésus restaure ton identité. Définitivement, Jésus cloue un acte, l'acte de ta vie, l'acte de ta condamnation sur un lieu que Satan ne pourra plus jamais approcher. Satan détourne les regards de la croix parce qu'elle lui rappelle sa défaite passée, mais son éternité à venir. Lorsqu'il avait prévu ça pour mettre fin à Jésus, mais Jésus a cloué sur le lieu de sa victoire. Alors que Jésus est crucifié, alors que Jésus descend et que Jésus est ressuscité, la seule chose qui reste, c'est l'acte qui te condamnait. Tu es libre ce matin, tu es trouvé libre. C'est pourquoi l'apôtre Paul va dire ceci, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Est-ce que tu es en Jésus-Christ ce matin? Il n'y a plus de condamnation. Ta condamnation, elle est sur le bois. Là où Satan n'a plus d'accès, là où Satan ne peut plus regarder, Satan ne peut plus s'approcher de la croix parce qu'elle est devenue le lieu de la gloire. Et lorsque Jésus est glorifié, et ce que Jésus se révèle aux disciples, le texte nous dit qu'il va souffler sur eux. Il va souffler sur eux disant « Recevez le Saint-Esprit ». Alors que je suis paru glorifié, alors que vous savez qui je suis désormais, il va souffler sur eux disant, moi je dois m'en aller, mais recevez le Saint-Esprit, recevez mon esprit qui sera avec vous chaque jour, recevez mon esprit. Et c'est ce que nous avons besoin ce matin, alors qu'on est là dans la présence de Dieu. Est-ce qu'on peut se lever ensemble ce matin pour dire, Seigneur, souffle sur nous ce matin, alors que la croix est vide, alors que ma condamnation est restée sur la croix, alors que je suis trouvé digne, un instrument de grâce. Seigneur, que tu puisses souffler sur ma vie ce matin. Je veux déclarer que ton souffle me donne la vie, que ton souffle me donne l'espoir, que ton souffle me rend la liberté. Je ne serai plus jamais le même parce que le prix a été payé.